Alors, béni soit le Seigneur, avec mon épouse, on vous salue dans le nom de Jésus, et c'est vraiment une grande joie, eh bien, que d'être ensemble dans la présence de Dieu, parce que je crois que Dieu est au milieu de nous. Amen. Alors, comme le frère l'a dit, la famille de Dieu, c'est réellement une famille, et quand l'un souffre, eh bien, on souffre, et quand on apprend qu'il y a un décès, on est touché dans notre cœur, même si on connaît, personnellement, je ne connais pas la famille, mais que Dieu vous console. Dans ces moments difficiles, que la grâce de Dieu soit réellement sur vous et que vous puissiez expérimenter qu'il est vraiment l'Esprit consolateur. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Je suis heureux d'être là, je réitère ce que j'ai dit avec mon épouse. C'est une journée formidable. Je trouve que les baptêmes sont la récompense de l'Église. L'Église est là sur la terre pour sauver des âmes. Sinon, le Seigneur serait déjà venu nous chercher. Mais nous avons un travail à faire. Il faut sauver des âmes. Et lorsque nous baptisons, je ne sais pas, c'est là, hein, ça va être là, voilà. C'est un bonheur, parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Alors, je ne sais pas si vous êtes heureux ce matin, mais moi je suis heureux, parce que de voir des jeunes s'engager avec Dieu, ça prouve qu'encore aujourd'hui, Dieu touche les cœurs. Et notre jeunesse a besoin de Dieu. Amen. Encore plus heureux parce que, eh bien, Léa Boitiot, nous on la connaît bien, pour ça qu'on est venu aujourd'hui. J'ai connu, et nous avons connu Léa et Loïs, toute petite, je le disais à Loïs hier, je t'ai connue à peine un peu plus grande que ça, hein, toute petite. Bon, elle a du mal à me croire quand je lui dis comme ça, mais bon. Et on les a vus grandir, et de voir aujourd'hui, bien qu'elle marche avec le Seigneur, et que déjà, eh bien, Léa va s'engager avec Dieu, c'est toujours une joie. Ça réjouit le cœur des parents, mais ça réjouit le cœur de l'Église. Et à Marseillais, l'Église est heureuse, eh bien, de savoir que Léa s'engage, et puis que les autres aussi, soyez bénis. Et soyez remplis du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Être heureux aussi d'être là pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur, parce que c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Ouvrir la Bible, qu'elle nous fasse du bien. J'ai aimé ces cantiques, notamment celui, le dernier, dont le frère a été inspiré. Chrétiens, préparons-nous, tenons nos lampes prêtes. C'est pas parce que j'ai été baptisé que je suis sauvé. Personne dit amen, là, hein. Je suis convaincu que le baptême est une étape très importante. Mais le chrétien doit se tenir prêt tous les jours. Car bientôt, nous nous retrouverons devant notre Créateur. Et c'est pas rien. Et j'ai aimé ce cantique, des cantiques que l'on chante peu souvent, mais tellement vrai. Tenons nos lampes prêtes, mes frères et sœurs. Chrétiens, préparons-nous, parce que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il va venir te chercher? Alléluia! Je l'espère, Seigneur. Il faut en avoir la certitude. Et quand on est prêt, on a la certitude. Hier, je suis venu en train, j'ai un peu des soucis de santé, j'étais obligé de prendre le train, et j'étais sûr que j'avais pas de problème, j'avais mon billet. Composté. Je craignais pas le contrôleur. J'étais dans la bonne voiture, dans le bon siège. J'étais prêt. Il n'est pas venu finalement. Non, le contrôleur. Mais quand Jésus reviendra, ce n'est pas le tout d'avoir une date de baptême, d'avoir une Bible à la maison. Il faudra qu'il y ait en nous la marque de Dieu, la marque de l'Esprit. Et vraiment, je voudrais vous dire ce matin, le thème que votre pasteur va aborder cette semaine, et j'en profite pour remercier votre pasteur, son épouse, de leur invitation. Remercier la famille Boitiot aussi. Que Dieu bénisse votre pasteur, que Dieu bénisse l'église de Toulouse Sud. Je retiens la leçon, hein. Et vous avez les salutations de Marseille Est. J'ai aimé le thème qui sera abordé cette semaine, parce que dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte. Et il faut que les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est tellement important. Lorsque j'ai su que je venais, un texte s'est imposé à mon cœur. Il ne m'a pas lâché. J'avais d'autres pensées, mais il s'est imposé, alors je voudrais le laisser sur votre cœur. Et puis le fait d'être prêt, ces chants que nous avons chantés m'encouragent dans ce sens. C'est dans l'épître de Paul aux Romains. Au chapitre 12, et je voudrais laisser un verset sur votre cœur. Romains 12, et c'est le verset 2. Qu'est-ce que j'aime entendre les pages de la Bible tourner. C'est formidable. Parce que maintenant, avec le numérique, on n'a plus de Bible en main, c'est dommage. Enfin, je ne suis pas contre le numérique. Hein. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je relis, c'est pas très long. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre nous donne là d'abord une chose à ne pas faire, dont il faut s'éloigner, à rejeter, et puis une autre qu'il faut rechercher, dans laquelle il faut abonder, entrer. D'abord, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Essayons d'employer un langage un peu plus clair. N'agissez pas selon les habitudes de ce monde qui est soumis au diable. C'est ça que ça veut dire. Ne vous laissez pas influencer par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas dominer par les choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et malheureusement, je m'arrête un instant, j'ouvre une parenthèse. Il faut reconnaître qu'on cherche de plus en plus à copier le monde. On se laisse influencer par le monde. Et quelquefois même, on se laisse conduire par lui. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, même quelquefois dans notre vie chrétienne, dans nos rencontres d'église, dans nos réunions de jeunesse. On sent qu'il y a l'esprit du monde qui est là. Quelqu'un disait un jour, c'est normal qu'un bateau flotte sur l'eau, mais enfin, il n'est pas normal que l'eau entre dans le bateau. Et on s'aperçoit aujourd'hui que doucement, l'esprit du monde semble rentrer au milieu de nous. Or, l'apôtre dit, c'est pas les pasteurs d'aujourd'hui qui le disent, mais c'est la parole de Dieu. Ne vous conformez pas. N'agissez pas comme les gens du monde. C'est l'apôtre qui nous invite à fuir ces choses-là. L'Église n'a pas à copier le monde. L'Église doit vivre selon la parole de Dieu et vivre avec l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses sont néfastes et ne peuvent pas plaire à notre Seigneur. Nous avons le désir, en tout cas moi j'ai le désir de plaire à Dieu. C'est ça être prêt. Comment pourrais-je rencontrer mon Père si je suis une copie conforme du monde ? Avec une simple étiquette de chrétien sur le dos et une date de baptême. Non, Dieu veut que nous soyons à part. Et l'apôtre le dit, ne vous conformez pas. Mais il nous encourage à aller dans une autre direction. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence ? Ben, j'ai regardé ce que dit le dictionnaire. L'intelligence, c'est la faculté par laquelle nous nous dirigeons. Elle inspire toute notre conduite. C'est par elle que nous choisissons, que nous décidons. Bon, l'intelligence a dit, oui, tu vas répondre à l'invitation et tu vas venir. J'ai réfléchi. C'est ça notre intelligence. Et elle a été faussée, elle est faussée, bien souvent, par les influences que le monde exerce sur elle. Et elle ne tient aucun compte de la volonté de Dieu. Elle agit souvent pour les plaisirs, les besoins du corps, pour satisfaire l'âme. L'être intérieur. Mais elle ne s'occupe pas de la volonté de Dieu. Elle a donc besoin, cette intelligence, d'être entièrement renouvelée. Nous avons besoin ce matin, nous les chrétiens, que notre intelligence soit renouvelée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, c'est-à-dire qui plaît à Dieu. Qui est agréable à Dieu et qui, aux yeux de Dieu, est parfait. J'ai besoin, et c'est ma prière, que mon intelligence soit renouvelée. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, eh bien, cela aura des conséquences formidables. Ça va transformer tout mon être. Soyez transformés. Qu'est-ce qui sera transformé ? Ma vie chrétienne. Comment vais-je me diriger dans la vie chrétienne ? Puisque mon intelligence sera renouvelée, je serai réellement sur le chemin de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le travail, c'est le rôle, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans notre vie. Dans l'épître de Paul aux Romains, toujours, on peut lire au chapitre 8 et au verset 5. On connaît, hein ? 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et c'est là le désir du Seigneur pour son Église aujourd'hui. Lorsque l'Esprit de Dieu a renouvelé notre intelligence, ça change tout. Ça change tout. Notre comportement devient un comportement spirituel et non plus charnel. Parce qu'il y a dans l'Église deux sortes de croyants. Il y a les croyants charnels, leur intelligence n'a pas été renouvelée. Et ils agissent comme les gens du monde. Ils se laissent influencer par le monde. Et lorsque nous avons été renouvelés dans notre être intérieur, par le Saint-Esprit, nous devenons, et c'est ce que Dieu désire pour ta vie, nous devenons des êtres spirituels. Et je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui de retrouver dans nos églises des chrétiens spirituels. Je le dis de tout mon cœur. Beaucoup, nous sommes nombreux le dimanche matin. Mais combien nous serons au ciel ? Nous avons besoin d'être de véritables croyants. Et pour cela, Seigneur, viens transformer, viens renouveler notre intelligence, afin que notre vie intérieure soit complètement bouleversée. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors oui, c'est un bon thème cette semaine. Et priez pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut que nos églises, nos jeunes qui ont été baptisés, soient remplis, qui seront baptisés, soient remplis du Saint-Esprit. Si mon frère, ma sœur, il y a des années que tu recherches le Saint-Esprit, ne perds pas courage. Dieu veut te remplir de son esprit pour que ton être soit entièrement renouvelé, conduit, dirigé, influencé par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes des chrétiens spirituels, alors nous avons sur nous l'approbation de Dieu. Et ça, c'est important. Et notre vie est à la gloire de Dieu. Alors comment est-ce que je vais savoir si je suis renouvelé, si mon intelligence a été renouvelée? Comment vais-je savoir si je suis réellement un chrétien charnel ou spirituel? Eh bien, les circonstances de la vie, les difficultés, les conflits, les problèmes auxquels nous devons faire face vont révéler notre état. Spirituel ou charnel. Et vous savez, quelquefois, Dieu nous fait passer au révélateur. Et là, quand on passe au révélateur, on est surpris. Je me souviens de cet homme qui était chrétien, je pense qu'il doit l'être encore, mais il n'avait pas été renouvelé. Son intelligence n'avait pas été renouvelée, il n'était pas transformé. Et il avait une voiture, vous savez, à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, ça se fait moins, mais à l'époque, on aimait beaucoup mettre des autocollants derrière. Vous avez connu cette époque, Dieu apporte la paix. Et lui, il avait mis, Dieu donne la joie. Dieu donne la paix. Avec Jésus, c'est le sourire. Et il y avait un grand sourire. Il en avait partout sur sa voiture. Et Dieu l'a passé au révélateur. Il est arrivé à la station d'essence et à l'époque, il y avait encore quelqu'un qui venait vous servir. Oui, c'est un autre monde. Les jeunes, ils vont dire, ah bon, ça existait? Oui, ça existait. Et il est arrivé, au même moment, de l'autre côté, quelqu'un est arrivé, après lui. Mais le pompiste, quand il est sorti, lui, il n'a pas vu. Il a été servir celui qui est arrivé après. Et là, le chrétien, ça ne lui a pas plu. Il entre dans le révélateur. Et il commence à grogner, c'est pas normal, et je suis arrivé avant quand même, et le ton a monté, l'autre ne s'est pas laissé faire. Bien sûr, il n'était pas chrétien, l'autre. Ça a tellement monté que le pompiste, lui, il s'est reculé. Et... Jésus donne la paix. Ah, Jésus donne le sourire. Jésus donne la joie. Il était intelligent, le pompiste. Et quand le chrétien a entendu ça, il a été vite s'asseoir dans sa voiture et il s'est calmé tout de suite. Et là, il a compris qu'il n'était pas encore réellement renouvelé. Dieu nous fait passer au révélateur. Parce que Dieu veut voir où nous en sommes dans la vie chrétienne. Je voudrais vous parler de deux hommes quelques instants. Deux hommes qui ont vécu dans la même génération. Deux hommes qui ont été appelés, mis à part. Deux hommes qui ont été oints pour devenir rois. Vous les connaissez, on en a parlé d'un tout à l'heure. Saül et David. Et vous entendrez encore parler de Saül cette semaine. L'un est spirituel, l'autre est charnel. L'un a été renouvelé dans son intelligence et toute sa vie en sera marquée jusqu'à la fin. Et nous voyons la différence, c'est très important, dès leur onction. Je voudrais qu'on puisse le voir ensemble. C'est dans 1 Samuel, bien sûr, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er. On va lire l'onction de Saül. Vous l'avez ? Verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Amen. Retenez bien. Samuel prit une fiole d'huile. On va au chapitre 16 et on va lire ensemble le verset 13. Et là, c'est la même personne qui oint, mais il y a quelque chose de différent. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Parlez de David. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et il est écrit juste après, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Vous allez me dire, mais ils ont été oints tous les deux. Quelle différence vous voyez ? L'un a été oint par une fiole. C'est pas anodin. La fiole est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme qui crée la fiole. La fiole nous parle de ce qui est terrestre, de ce qui est humain, de ce qui est charnel. Quant à David, lui, il a été oint avec une corne d'animal. Et ça, c'est pas l'œuvre de l'homme. Je disais un jour à l'église, on ne voit pas des gens fabriquer des cornes et les coller sur les vaches ou non. Hein ? Ils sont nés avec. Et ça, ça nous parle de ce qui est d'en haut, de ce qui est divin, de ce qui est spirituel. Et la différence, elle est faite. L'un sera charnel toute sa vie et l'autre sera spirituel toute sa vie. Car l'un, tout de suite, a été saisi de l'esprit. Son intelligence a été renouvelée et toute sa vie, eh bien, en portera des conséquences formidables, formidables. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir l'intelligence renouvelée afin de vivre dans notre génération comme de véritables enfants de Dieu. Non pas des chrétiens, des enfants de Dieu, non pas des chrétiens, de véritables disciples à la gloire du Seigneur. Êtes-vous devenu chrétien ? Et vivez-vous votre vie chrétienne par l'action d'un homme ? Par une émotion que vous avez vécue il y a quelques années et qui a fait que vous vous êtes engagé ? Peut-être par des sentiments humains ? Vous dites, mais on est bien dans l'église où j'étais bien et j'ai donné mon cœur à Dieu. Ou alors, êtes-vous devenu chrétien par une puissante action du Saint-Esprit ? Par l'œuvre de Dieu profonde au fond de votre cœur ? C'est ça dont nous avons besoin. Être marqué de l'esprit. Pour faire la différence dans un monde où on ne sait plus. On entend des gens dire « je suis chrétien » et quand on le regarde vivre, on dit « il est chrétien ?» Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? On ne sait plus. On voit des choses sur Internet qui nous effraient. D'ailleurs, je ne regarde plus, moi. Être chrétien, c'est vivre à la gloire de Dieu. Dans un monde où tout est corrompu, eh bien, nous voulons suivre les traces de notre Seigneur en mettant en pratique sa parole. Alors, David, Saül, leur onction est différente et leur vie sera différente. Tout au long de leur vie, nous allons voir la différence et Dieu va les passer au révélateur. Et à chaque fois que David va passer au révélateur, il va en sortir vainqueur. À chaque fois que Saül passera au révélateur, ce sera la catastrophe. Je voudrais voir avec vous quelques révélateurs. D'abord, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 38, on va trouver le premier révélateur lorsque nous sommes dans le danger, face aux problèmes, aux difficultés, aux soucis. Et quel chrétien n'a pas de soucis ? Je ne parle pas des fleurs, hein. On en a des problèmes, non ? Il y a la maladie, il y a le chômage, il y a les problèmes avec les enfants, il y a les problèmes de voisinage, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a les problèmes d'angoisse, de peine, de deuil. Ça devient de plus en plus dur. Beaucoup de chrétiens disent « Reviens, Seigneur ». Comment réagir lorsque les problèmes sont là, lorsque le danger fait face, lorsque les Goliaths se lèvent dans notre vie? Comment réagir? Eh bien, on va voir deux réactions. D'abord, il y a la réaction de Saül, verset 38 du chapitre 17. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis point accoutumé. Et il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Saül, devant Goliath, devant le danger, s'appuie sur les armes terrestres. Et oui, il n'est pas renouvelé, lui. Il manque de foi, il manque de courage. Il ne prie pas, vous ne le voyez pas se mettre à genoux. Cherchez Dieu, secours-nous, Éternel. Qui aurait dû combattre Goliath, c'est pas David, c'était bien le roi. Et s'il s'était mis à genoux et avait dit « Éternel, je vais en ton nom, tu es avec moi », il aurait fait tomber la tête du géant. Mais il n'a pas pensé à prier. Lui, il pensait aux armes terrestres, son casque, sa cuirasse, son bouclier, son épée. Et lorsque ce jeune David est venu, eh bien, il n'a pas eu d'autre chose que de lui dire « Allez, prends mes armes, le pauvre ». C'était pas la même carrure. Voyez, il pensait qu'aux armes de la terre. Il manque de foi, il manque de courage. Et ça, c'est la réaction de celui qui est charnel, de celui qui n'a pas été renouvelé. Lorsque les difficultés sont là, lorsque les problèmes arrivent, il s'affole. Il cherche des moyens humains. Sa foi, tout doucement, va laisser la place au doute. Il se demande si Dieu est avec lui, si Dieu pourra le secourir. Et combien de chrétiens arrivent à dire « Est-ce que Dieu est là ? Est-ce que Dieu m'aime ?» « Pasteur, j'en peux plus, où est Dieu ?» Il ne compte même plus sur Dieu. Il appelle un tel, un autre. Il va chercher des moyens humains comme le fait en son temps Saül. Mais quand on a été renouvelé dans notre intelligence, notre réaction n'est pas la même. David, il dit « Mais je n'ai pas besoin de ces armes. Je ne suis pas habitué à ces armes. Moi, j'ai d'autres armes. » Alors il s'en débarrasse. Vous connaissez l'histoire autant que moi. Il court au torrent et je suis sûr que là au torrent, il prie, même si c'est pas écrit. Il prend ses pierres, il les met dans sa gibecière de berger et il part. Plein de foi. Oh, il dira, je vais, mais il se reprend. L'Éternel sera avec moi. Et c'est l'Éternel qui me donnera la victoire. Il préfère les armes spirituelles. Et il met sa foi en Dieu. Le verset 45, il est remarquable. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Alléluia ! Le spirituel, lui aussi, comme David, fera confiance à son Dieu. Si peut-être dans ta vie ce matin il y a un Goliath qui est là, mon frère, ma sœur, sois renouvelé par le Saint-Esprit dans ton intelligence. Et ta réaction, elle sera différente. Utilise comme lui les armes spirituelles. Quelles sont-elles? La foi. J'ai toujours confiance en Dieu. Il ne nous déçoit jamais. Dieu l'a dit ce matin dans ce don spirituel. Je te connais. Je dis merci Seigneur, tu sais toujours nous donner une bonne parole. Il a vu notre premier pas. Moi, je n'ai pas vu mon premier pas. Je ne me rappelle plus en tout cas. Et le dernier, je ne le verrai pas non plus, puisque ce sera le dernier. Mais Dieu le verra. Et entre ces deux pas, combien j'en ferai? Dieu connaît chaque pas. Et c'est ça devant l'adversité. Si tu es devant un Goliath ce matin, mon frère, ma sœur, rappelle-toi qui est l'Éternel. Il est celui qui t'a sauvé, celui qui t'aime, qui te gardera dans ses bras d'amour. Gloire à Dieu, la foi. La prière, bien sûr la prière. Saül aurait dû prier, mais il avait la tête ailleurs. Lui, il avait la tête en bas. David avait la tête en haut. Comme tu m'as délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, tu me délivreras de ce géant. Un homme de prière, prie le Seigneur. Ça, c'est les armes spirituelles. La foi, la prière, la parole de Dieu. On lit de moins en moins la Bible. On lit la pensée du jour sur Internet. Je ne suis pas contre la pensée du jour quand encore elle est bonne. Hein. Lisez la Bible. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la Bible. Vous trouverez les armes nécessaires pour faire face et pour vaincre le géant. Le diable voudrait nous faire croire qu'on n'a plus besoin de ces choses, mais elles sont pour nous essentielles. Celui qui est renouvelé va utiliser ses armes. Vous savez, il y a une espèce d'oiseau, je ne me souviens plus laquelle, sont la proie des serpents dans un certain pays. Et ces oiseaux n'ont pas de défense, mais ils ont trouvé une parade. Ils font leur nid, et lorsqu'ils ont terminé leur nid, ils vont chercher des feuilles particulières qui sont mortelles pour les serpents. Pas si bêtes les animaux, hein. Alors ils vont chercher, ils en mettent tout autour, et ils sont préservés. Parce que le serpent a horreur de ces feuilles qui sont devenues pour ces oiseaux des feuilles protectrices. Mais bien aimés, dans les combats, entourons-nous des choses qui sont abominables au diable. Entourons-nous des choses qui font fuir le diable. La prière, la parole, la foi, et j'ajouterai l'église locale. Parce que quand on souffre, quand on est devant un Goliath, c'est dans l'église où on est fortifié, avec ses frères et sœurs. Et ça fait du bien quand on est dans l'adversité, face à un problème, et qu'on entend les frères et sœurs prier pour nous. Ah, il prie pour moi, je croyais qu'il ne m'aimait pas, mais si, il t'aime. J'aurais pas cru qu'elle allait prier pour moi. Et pourquoi elle prierait pas pour toi? On se sent soutenu, entouré, fortifié. Vous avez remarqué combien le diable, dans les moments difficiles, quand on est devant des Goliath, il nous fait rejeter la parole. Il arrive à nous détourner de la foi, à faire entrer le doute dans notre cœur. Et il arrive même à nous éloigner doucement de l'église. Avant, on était toujours devant. Puis on voit le frère qui descend d'un rang, dit « Tiens, il va pas bien, lui. » Puis à un moment donné, il est au dernier rang, on dit « Ah là, ça va pas du tout. » Et 2 semaines après, on ne le voit plus. C'est l'œuvre du diable. Parce que quelque part, il n'y a aucune accusation de ma part. Hein. Parce que quelque part, nous n'avons pas assez été renouvelés dans notre intelligence. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous affrontons l'adversaire. Et Dieu a dit que celui qui est avec nous, il est plus grand et plus fort que celui qui est contre nous, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors si tu es devant un Goliath ce matin, mon frère, ma sœur, reste calme. Reste tranquille. Tu seras serein, plein de confiance. Parce que tu auras été renouvelé et tu sais que ton Dieu te délivrera. Vous savez, j'aime les psaumes. Qui n'aime pas les psaumes, hein ? Il y a un psaume que je lis assez souvent, en tout cas un verset qui me fait toujours du bien. C'est le psaume 73. Et je vais vous lire juste un verset, le verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. » Pas comme Saül, non pas dans ce que vont dire les uns les autres. Vous savez, les chrétiens, quand ça ne va pas, ils appellent les uns les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Mais le proverbe dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Cherche conseil vers Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Placez votre confiance dans le Seigneur. Et vous savez, Dieu change les choses. Même quand il n'y a plus d'espoir, Dieu agit d'une manière qui nous dépasse. Parce qu'il voit notre être intérieur. Il voit que nous restons pleins de confiance. Nous ne sommes pas des Saül, mais nous sommes des David. Alors il dit, je vais l'honorer. Et Dieu a honoré David. Allez, ne me faites pas dire et croire que c'est la petite pierre lancée par David qui a tué le géant. Et si, c'est écrit, oui, oui, mais ce n'est pas avec la force de David. Moi, je suis convaincu que quand David a pris sa fronde, attention, je suis au fond de la salle, hein, et qu'il a commencé à prendre son élan, et il a lâché la pierre, je suis sûr que Dieu a pris, hop, je prends la pierre, moi, maintenant. Et allez, il a lancé un petit coup, là, et le terrible Goliath, ça a été son dernier instant. Hein. Il est tombé, raide. Dieu a honoré la foi de David. Et Dieu honore notre foi. Un chrétien, dans le temps passé, a été arrêté, c'était un temps particulier, il y a eu un meurtre. Une jeune fille a été assassinée. Deux personnes ont été saisies parce qu'ils étaient pratiquement sur les lieux du crime. Et bien sûr, les deux disaient « ce n'est pas moi ». Il y avait un homme de Dieu. Et vous comprenez que ce n'était pas lui. Non, ce n'est pas lui. Mais il y avait une coutume, une règle, une loi dans ce pays à cette époque. Lorsqu'on ne savait pas, on tirait au sort. Et si le sort tombait sur vous, eh bien vous passiez à l'échafaud. Alors le maître des lieux a dit, vous allez lancer les dés. Celui qui fait le plus grand nombre, c'est lui qui est innocenté. Le coupable, c'est-à-dire celui qui n'était pas croyant, a pris les dés, il les a lancés. Et il a fait 6 plus 6. Pour ceux qui ont déjà joué au dé, vous savez qu'il n'y a pas... Vous êtes d'accord, hein? Donc l'autre, quand il a vu le résultat, il s'est dit, Seigneur, il aurait pu dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu changer les choses. Non. Avant de lancer les dés, il a dit, permettez que je prie mon Dieu. Je vous raconte une histoire vraie. Il s'est mis à genoux devant le maître des lieux, devant le coupable, devant tous ces gens qui étaient là, et il a prié, Éternel. Si je dois te rejoindre aujourd'hui, moi je suis prêt. Mais si tu veux me donner la vie, montre-leur que tu es plus fort, que tu es le plus grand. Je remets ma vie entre tes mains. Il a pris les dés, il les a lancés. Vous allez me dire, ouais, ben, c'est bon, et il a fait combien? Un et un. Il a fait 6, et il a lancé les dés, et allez savoir comment, il y a un dé qui s'est cassé. Et il s'est retourné les deux faces. 6, 6, et l'autre côté du 6, c'est le... C'est le 1. 6 et 6, 12 plus 1, 13. Le maître des lieux, en voyant ça, et en ayant entendu prier cet homme, a regardé l'autre et lui a dit, il faut que tu me dises si c'est toi. Et l'autre a été confondu. Je suis coupable. Et ce chrétien pouvait dire, le Dieu a honoré ma foi. Ne désespère pas, mon frère, ma sœur. Dieu va honorer ta foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre à jouer au dé. Je ferme la parenthèse. Mais aie confiance dans le Seigneur. Dieu ne déçoit jamais ses enfants parce qu'il est un Dieu d'amour. Amen. Un autre révélateur, dans 1 Samuel chapitre 18, verset 8. Là, on connaît ce passage, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000, mais il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour, et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Et je suis obligé de dire amen, parce que c'est la parole de Dieu. Saül est irrité. Il est jaloux. Jaloux du succès de l'autre. Il est plein d'orgueil. Il ne veut la gloire que pour lui. Alors il ne comprend pas pourquoi les femmes chantent. Ah, Saül, c'est 1000. Ah, David, c'est 10 000. Au lieu de se réjouir de ce qu'ensemble on a remporté la victoire, il le regarde d'un mauvais œil. Comment est-ce que tu regardes ton frère? On devrait tous se regarder avec un bon œil. Non? Bon pied, bon oeil. On devrait se rencontrer le matin et lui dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Eh ouais, mais le charnel, il a l'esprit, il n'a pas été renouvelé dans son être intérieur. Le charnel, eh bien, comme cet homme de la Bible, il cherchera toujours sa propre satisfaction. Il cherchera toujours sa propre gloire. Il sera toujours conduit vers l'orgueil et critiquera facilement les autres. Il verra toujours en l'autre ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que les sentiments de Christ ne sont pas en lui. Il veut lui être honoré. Il veut lui être mis en avant. Il veut lui être élevé. On est dans un monde où, malheureusement, même dans l'Église, on veut être élevé. Mais le Seigneur dit, si tu veux être élevé, laisse-toi baisser. Dieu t'élèvera lui-même. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans 1 Samuel, chapitre 24, on voit la réaction, par contre, de David. Et cette réaction, moi, elle me plaît. 1 Samuel 24, verset 5, je vous lis. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. Quelle réaction, non? Ils sont différents, ces deux-là. Le premier, rien que par des paroles, il est plein de haine et à partir de ce jour, il va chercher à tuer. David a l'occasion, lui, de régler ses comptes. Il fuit. Il échappe à Saül parce que Saül cherche à le mettre à mort. Et il arrive dans la... Vous connaissez l'histoire, hein? Il arrive dans cette caverne. Et là, les gens qui sont autour de lui, ils viennent et disent, « Oh, David, Dieu est avec toi. Hein? Tu es vraiment un homme de Dieu. Hein? Pourquoi ? Mais regarde, t'as vu qui c'est ? Non ? C'est Saül. Tiens, prends mon épée, vas-y. C'est Dieu qui te l'a livré. » Et il aurait pu dire, « C'est vrai, finalement. C'est une grâce de Dieu. C'est lui qui vient. Je vais régler mes comptes. » Mais c'est pas ce qu'il fait. Plein de respect, plein d'amour. Il va couper le pan du manteau. Et quand il vient, il est tout tremblant, il est touché parce qu'il a coupé une partie du manteau de Saül. Il s'abaisse et élève même celui qui veut le tuer. Comment toucherai-je loin de l'Éternel ? Il va triompher du mal par le bien. Béni soit le Seigneur. Et ça, c'est ce que fera le spirituel. Quand il entendra peut-être certains être élevés alors que lui non. Peut-être que lui aura fait des choses mais on ne l'élèvera pas. Ça arrive cela. Mais non, il va triompher du mal par le bien. Le spirituel cherchera toujours la gloire de Dieu. Il ne cherchera pas querelle. Il sait se taire et laisser faire Dieu. Son cœur est toujours plein d'amour. Et surtout, il voit dans l'autre la marque de Jésus. Il arrive à discerner ce qui est de Dieu. Alors, il faut aussi discerner ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand on a été renouvelé par l'Esprit de Dieu, on sait discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et il sait prier et mettre sa confiance dans le Seigneur. Alléluia. Comprenez pourquoi David était un homme de Dieu. Il y a une différence entre Saül et David. Et combien de fois, à plusieurs reprises, relisez lorsque Saül est mort et qu'on l'annonce à David, il ne fait pas la fête. C'est le deuil, c'est la tristesse. Pourtant, qu'est-ce qu'il y en a fait voir ? Et il faut reconnaître que des fois, on a des chrétiens qui nous en font voir. Là aussi, on n'entend pas beaucoup « Amen hein. ». Mais c'est vrai. C'est pas pour ça qu'on les aime pas. Mais on dit « Seigneur, bénis-le. » Parce qu'en lui, il y a une part de grâce. Parce qu'en lui, il y a aussi ta présence. Alléluia. Soyons spirituels, mes frères et sœurs. Soyons humbles, soumis. D'où ? C'est comme ça que Dieu nous élèvera. C'est celui qui s'abaisse que Dieu élève. Et celui que Dieu élève, Dieu l'abaissera tôt ou tard. D'ailleurs, Saül a été abaissé. Quel révélateur ! Devant l'adversité, David en sort vainqueur. Face à l'orgueil qui est un ennemi chez les chrétiens. C'est souvent ce qui fait tomber les chrétiens, l'orgueil. Il en sort encore vainqueur. On a le temps d'en voir un autre encore ? On va aller dans 1 Samuel chapitre 13, verset 11. 1 Samuel chapitre 13, verset 11. On arrive devant un autre révélateur qui s'appelle le péché. On en a entendu parler tout à l'heure pendant la Sainte Cène. Et ça, c'est un révélateur. Parce que vous remarquerez que ce soit le spirituel ou le charnel, nous pouvons tous pécher. Je ne vais pas dire, et ça serait une hérésie, que si vous êtes renouvelé dans votre intelligence, vous ne pécherez jamais. C'est faux. David a péché. Saül a péché. Et si on mettait sur la balance les péchés, celui de David est peut-être plus lourd même que ceux de Saül. Mais il y a une différence. Une façon d'aborder le péché tout à fait différente. À Samuel 13, verset 11, il est écrit, Samuel dit, « Qu'as-tu fait ? Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements de Dieu. L'Éternel, que l'Éternel t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. » Vous entendrez parler de cela cette semaine. J'essaierai de venir si le train est là, mais ça m'intéresse. Saül désobéit. Mais vous le voyez s'humilier ? Jamais il ne reconnaît ses fautes, Saül. C'est toujours la faute des autres. Tu n'es pas venu à temps. Le peuple était impatient. Et les adversaires arrivaient. C'est jamais de sa faute. C'est quelqu'un qui ne sait et qui ne demandera jamais pardon. C'est jamais de la faute de Saül. Et vous savez, quand celui qui n'a pas été renouvelé dans son être intérieur se trouve face au péché, eh bien, il cherche toujours à accuser les autres. Finalement, c'est jamais de sa faute, il n'est jamais coupable. Il a toujours des circonstances atténuantes. Il cherche toujours à s'en sortir en montrant du doigt quelqu'un d'autre, comme Saül. Et malheureusement, comme Saül, c'est là qu'il est rejeté de Dieu. C'est là que Dieu va mettre un terme. Tu as agi en insensé. Et Dieu dira, je vais t'enlever la royauté. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quel est ce quelqu'un d'autre à votre avis? C'est l'homme qui a été renouvelé dans son être intérieur. C'est celui qui est rempli de l'esprit. Voyez-vous mes frères et sœurs, quand on ne sait pas s'humilier, alors il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Je vous l'ai dit, David aussi a péché. David a péché, excusez-moi le mot, salement. On connaît tous l'histoire. Adultère. Meurtre, mensonge, pensée. Oui, il a eu un moment de terrible faiblesse où il pensait que Dieu n'allait pas le voir. Et quand l'homme de Dieu vient, il a compris, David. Parce qu'il connaît l'Éternel, parce qu'il est proche de l'Éternel. Et la différence avec Saül, c'est que face au péché, David s'humilie et Dieu lui pardonne. Quelques versets ont été cités tout à l'heure, mais rentrons à la maison, cet après-midi, ce soir, relisez le psaume 51. Et vous verrez si David cherche des excuses. Vous me direz si David accuse quelqu'un d'autre. Il aurait pu en trouver des excuses. Non, j'ai péché. Je suis un pécheur. Délivre-moi des liens du péché. Et quand on sait s'humilier, reconnaître ses fautes et dire si j'en suis là aujourd'hui, c'est de ma faute. Alors Dieu nous relève. Dieu fait grâce à celui qui s'humilie. Si mon peuple s'humilie, je le bénirai, dit la parole de Dieu. Et peut-être que quelqu'un a besoin de s'humilier ce matin. Oh, ce n'est pas des choses que l'on aime faire. Mais si tu t'humilies dans ton cœur, si tu demandes à Dieu de te pardonner, peut-être pour ta négligence, peut-être pour un péché que tu as commis, Dieu va te pardonner. Si c'est quelque chose qui est avec ta chair personnelle, c'est entre toi et ton Dieu. Si tu as fait du mal à un frère, à une sœur, va lui demander pardon et demande pardon à Dieu, si c'est à l'église. Et le courage de venir et de dire pardon. On ne sait plus le faire ça non plus, mais on le faisait avant. Hein. Pardon, parce que j'ai mal parlé de l'église. J'ai mal parlé de mon assemblée. J'ai mal parlé du frère, de la sœur. Alors je vais le voir. On règle les choses et Dieu nous pardonne, toujours. On a besoin de vivre cela. C'est pour ça que j'aime David. Face au péché, il a une action spirituelle. Alléluia. Il est vrai devant Dieu et il est relevé. Vous lirez le Proverbe 24, versets 15 à 22. On ne va pas le lire ce matin, mais notez-le. Proverbe 24, versets 15 à 22. Il est parlé eh bien, du chrétien spirituel qui s'est demandé pardon. Nous voyons ensuite Saül conduit par la chair, plongé de plus en plus. Vous lirez 1 Samuel chapitre 15, 3 et 9 et 24 à 30. Il plonge, il plonge, il plonge. Et au plus profond de son péché, il cherche encore à être honoré. Et il dira à l'homme de Dieu, honore-moi, aucun regret de ce qu'il fait. Il va dégringoler, dégringoler, et c'est terrible jusqu'où il va. Vous lirez chapitre 28, verset 7, il va jusqu'à invoquer les morts. Il arrive à être en abomination devant l'Éternel. Alors que le chrétien spirituel sait se repentir et il sait en tirer des leçons. Saül, non. Chaque fois qu'il se trompe, qu'il pêche, il retombe encore plus bas. Il ne tire pas de ses erreurs des leçons. Mais le chrétien doit apprendre de ses leçons. Qui au milieu de nous n'a jamais péché? J'attendais qu'il y en ait un qui lève la main. Nous avons tous péché, mais nous en avons tiré des leçons. Et on dit, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Je crois que Dieu me pardonne. Et il faut le croire aussi. Le sang de Jésus me purifie. Le frère nous a parlé de cela tout à l'heure. Et lorsque la Sainte Cène arrive, alors avant qu'elle vienne, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal parlé, j'ai mal agi. J'ai eu une mauvaise action cette semaine dans ma famille, sur mon lieu de travail. Pardon, Seigneur, mais donne-moi aussi la force de ne plus recommencer. Et quand la Sainte Cène vient, alors par la foi, Seigneur, je crois que ton sang me purifie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, on prend la Sainte Cène, on dit, je suis purifié. Ça y est, ne reviens plus dessus. Mais va et ne pêche plus. Dieu m'a pardonné. Alléluia. Et on en tire une leçon. Seigneur, je ne me ferai plus avoir. Le spirituel peut pécher. Celui qui était renouvelé peut pécher. Mais son péché va lui servir de tremplin pour aller plus loin dans la vie chrétienne et pour être à la gloire de Dieu. Pour cela, il faut s'affectionner des choses d'en haut. C'est important. On peut voir aussi que Saül se moque pas mal de l'œuvre de Dieu. Voyez pas s'intéresser à l'œuvre de Dieu, pourtant il est roi. C'est lui qui devrait être proche de Dieu. Alors que David lui prend à cœur la construction du temple. Dieu lui dira, non, c'est pas toi qui construiras. Mais il a à cœur de le faire. Il s'intéresse à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Vous savez, le charnel ne sera jamais sensible ni impliqué dans l'œuvre de Dieu. Quand il vient, eh bien, comme ça a été dit tout à l'heure, dans un don spirituel, je crois, ou dans une prière, je ne me souviens plus, donne. Mais quand il faut donner de son temps, de son énergie, de ses talents, je ne suis pas là. On pense à soi, et quand on vient à l'église, il faut recevoir. Mais Dieu nous appelle à donner. Et David, lui, son unique préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu. Il a cœur de construire un temple. Vous avez des maisons et mon Dieu n'a rien. Il a cœur de faire quelque chose pour le Seigneur. Quand on est spirituel, notre unique préoccupation, c'est d'être pleinement engagé et investi dans l'œuvre de Dieu. Et on le fait avec joie. Quelle joie d'être ensemble, c'est pas vrai? On vient le matin, mais on vient l'après-midi. Et on chante. Et on prie. Et on écoute la parole. Ça nous fait du bien. On pense au Seigneur, on pense à l'œuvre de Dieu, on veut sauver des âmes, et on est là, gloire à Dieu, on est investi, et on le fait avec joie. Ça, celui qui a été renouvelé. Puis je termine avec la fin de leur vie. On a démarré à leur onction, quelle est la fin de leur vie? Comment Saül a fini? Eh bien, il s'est suicidé. Vous imaginez? J'en tremble de le dire. Quand tu étais petit à tes yeux, tu étais quelqu'un de grand. Mais la chute a été brutale. Il s'est jeté sur son épée. Le serviteur ne voulait pas le faire, mais lui l'a fait. Il s'est suicidé. Ça me touche. Combien de chrétiens se suicident spirituellement et on ne les voit plus? Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Ne me parlez plus de l'église, je n'y vais plus. Ça fait mal au cœur. Comment, quand on a connu la grâce de Dieu, quand on a connu la vie de l'Église, comment retourner dans le monde? C'est pas possible. Il a fallu une descente terrible, une chute, comparable à la chute de Saül. Comment finit David? Un chronique, chapitre 29, verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut malheureux comme une pierre et pauvre. Non, pardon, je me suis trompé. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Et ça m'a rappelé un texte, c'est le tout dernier, dans les Actes des Apôtres, où il est parlé de cela, c'est Acte 13, vous le connaissez, verset 21, je vous lis, ne cherchez pas, Acte 13, 21. « Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaü, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. » Mes frères et sœurs, quelle différence! Et tout vient de l'onction. Tout vient de l'onction. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Que Dieu puisse dire la même chose de chacun d'entre nous ce matin. J'ai trouvé un homme, une femme selon mon cœur. Frères et sœurs, soyons spirituels. Et pour cela, acceptons que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À un moment donné, Saül n'avait plus que le nom de roi, parce que quand Dieu lui dit « Je t'ai rejeté », il était toujours roi. Mais il n'avait plus que le nom de roi. L'onction n'était plus. La présence de Dieu n'était plus. N'ayons pas que le nom de chrétien. Mes frères et sœurs, c'est ça être prêt. N'ayons pas que le nom de chrétien. Soyons des gens spirituels dans notre génération. Le monde a besoin des chrétiens. Le monde a besoin de nous. Quel est le secret de David? On ne va pas continuer. Vous lirez le psaume 63. Et vous verrez quel est le secret de David. Ce qui lui a permis de durer dans le temps et finalement d'atteindre le but. Vous lirez le psaume 63. Et imitons-le. Parce que je suis pasteur. Je suis d'abord chrétien. Et je suis comme vous, je ne suis pas encore arrivé. Il y a les pièges, il y a les Goliaths. Il peut y avoir l'orgueil qui peut se dresser aussi dans ma vie. Il peut y avoir toutes sortes de choses, des problèmes comme il a vécu. Nous aussi, nous allons passer au révélateur. Mais si nous sommes renouvelés, nous en sortirons vainqueurs. Ce matin, Seigneur, fais de l'Église des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Je dis toujours à Marseillaise, on n'a pas besoin de chrétiens, on a besoin de disciples, d'enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. On peut prier ensemble ? Alléluia. Notre Père, que pouvons-nous faire sans le Saint-Esprit ? Dans une semaine, nous allons fêter la Pentecôte. Seigneur, la Pentecôte nous transforme. Pierre a été transformé à la Pentecôte. Son esprit a été renouvelé. David, Seigneur, a été saisi par l'Esprit. Et quelle vie différente de Saül ! Qu'au milieu de nous, il n'y ait que des David, Seigneur, des hommes, des femmes de Dieu. Renouvelle-nous dans le Saint-Esprit. Fais-nous sentir cette onction fraîche. Ô Saint-Esprit, descends sur nous. Nous voulons, Seigneur, vivre en chrétien, en véritable enfant de Dieu. Tu connais celui qui traverse des temps difficiles, celui qui est peut-être tenu par l'orgueil. Seigneur, tu connais celui qui est dans l'animosité, celui qui peut-être est découragé. Seigneur, étends tes mains ce matin, fais du bien à ton peuple, renouvelle la foi dans notre cœur, et que nous puissions faire tomber les géants, que nous puissions gagner du terrain, et comme David, que nous puissions aller jusqu'au bout, et que tu puisses dire aussi de chacun d'entre nous, j'ai trouvé un tel, selon mon cœur. Merci Saint-Esprit, pour ce que tu fais en nous ce matin. Merci pour cette église, bénis-la, bénis les futurs baptisés. Bénis les âmes cet après-midi, touche des cœurs, manifeste-toi Seigneur, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Bénis Seigneur ton pasteur dans cette église, fais-lui du bien, fortifie-le, encourage-le. Bénis chaque frère, chaque sœur, les jeunes dans la foi, les moins jeunes, les plus anciens, les couples, les enfants, étends tes mains sur chacun. Et qu'à Toulouse l'évangile prospère et qu'elle gagne du terrain au nom de Jésus-Christ. Amen.